Hello et bienvenue dans Roller Coaster, le podcast des personnes qui ont décidé de vivre une vie qui les anime et qui a du sens. Et s'il n'y avait ni magie, ni chance qui explique que certaines personnes se rapprochent de leur idéal? Et si c'était avant tout une question de mindset? Et si vivre le grand frisson était à la portée de tous? Qu'ils soient entrepreneurs, expats, femmes au foyer ou employés, découvre et inspire-toi de leurs histoires, de leurs rêves, de leur looping émotionnel, bref, de toutes ces étapes qui leur permettent de se rapprocher de leur idéal. Aujourd'hui, dans Roller Coaster, je suis ravie d'accueillir Marine André. Marine, c'est une jeune femme pétillante, douce, déterminée, avec un sérieux esprit d'entrepreneur. À peine sortie de l'université, elle décide de lancer sa propre marque de cosmétiques Bi Nature. Marine, c'est clairement quelqu'un qu'on peut qualifier de même entrepreneur. En plus de gérer sa marque, elle gère une sacrée tribu de 4 enfants. Pour encourager les femmes à devenir entrepreneurs, elle vient de lancer un livre qui s'appelle « Entrepreneur et maman ». Je suis donc ravie de l'accueillir. Bonjour Marine.
Bonjour Amélie.
Alors Marine, est-ce que du coup j'ai bien résumé finalement ton activité ?
Oui, tu as bien pitché l'entreprise.
Avant que tu partages vraiment avec nous ton expérience et tes apprentissages en tant qu'entrepreneuse, aujourd'hui, ton actualité, elle est vraiment marquée par le lancement de ton livre « Entrepreneur et maman ». Quel est le but et quel est le message finalement de ce livre ?
Exactement, j'ai lancé un livre il y a 2 mois, donc avec les éditions belges Mardaga. Le message, c'est de montrer qu'avec beaucoup d'organisation et de créativité, c'est possible de se lancer dans l'entrepreneuriat en étant maman, ou à l'inverse, de se lancer dans la maternité si on est entrepreneur. C'est possible de combiner les deux et qu'il faut oser se lancer.
Est-ce que pour toi, le fait de savoir oser se lancer, à un moment, tu le dis clairement dans le livre, qu'il faut savoir oser voir grand, oser rêver grand, c'est des choses qui sont du coup hyper importantes quand on est entrepreneur?
Je pense que pour être entrepreneur, il faut quand même avoir un petit... je peux me tromper, je parle peut-être que de moi en disant ça, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté idéaliste quand même chez les entrepreneurs. Et qu'en effet, il faut avoir une vision du produit, du service, de l'entreprise qu'on crée, qu'on lance. Soit une vision grande, mais ça, tout est toujours relatif. Qu'est-ce qui veut dire oser rêver grand? Pour quelqu'un, ça va être la liberté de gérer son temps, son agenda, de combiner justement une vie de famille avec une vie professionnelle. Pour une autre entrepreneur ou un autre entrepreneur, ça va être créer 120 emplois. Donc chacun ses objectifs et sa vision, mais je pense qu'il faut oser la rêver, en tout cas pour oser se lancer.
Et du coup, ce projet, donc Binature, il a vraiment émergé en fait de ton mémoire de fin d'études.
Oui.
Quand tu étais petite, est-ce que tu t'imaginais justement devenir entrepreneur? Est-ce que tu t'imaginais ce type de parcours, ou est-ce que tu voyais complètement quelque chose de différent?
Je pense que j'ai toujours su au fond de moi que je voulais être entrepreneur, en tout cas indépendante. Je ne sais pas quel terme exactement utiliser. J'ai toujours su que je voulais être mon propre patron. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs et je pense que ça m'a donné la fibre entrepreneuriale, clairement. Si je pense que je ne rentre pas dans les cases, voilà.
Dans quelle case, du coup?
je dis des mots touchy, évidemment. Faite pour une vie professionnelle avec des processus et avec une hiérarchie stricte.
Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, ou qu'est-ce qui a fait d'oser justement passer de cette idée finalement au projet, au lancement de ce statut d'entreprise?
Donc en fait, Binature, c'est mon projet de fin d'études. J'avais 22 ans. Et donc j'ai commencé à travailler pendant 4 mois pour une grosse multinationale en Belgique, et le projet me restait vraiment en tête. Je pensais qu'il y avait vraiment du potentiel. J'avais tout analysé, j'avais fait mes études de marché, j'avais rencontré les experts, j'avais choisi le nom et tout, donc j'avais été vraiment loin dans le projet. Et je trouvais ça triste que ça reste justement un projet d'études sur papier. J'avais besoin de finaliser en fait la création de l'entreprise, et j'ai participé à un concours organisé par le magazine Elle. par terre d'homme d'affaires, mais aussi de journaliste beauté. Et j'ai remporté le concours. Et donc là, je pense que ça a été le déclic pour moi de me dire, allez, si le projet a plu, si un jury d'homme d'affaires, mais aussi de journaliste beauté, ont choisi mon projet, c'est qu'il y a du potentiel, c'est qu'il y a une place à prendre sur le marché. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai 22 ans, je n'ai pas encore de loyer à payer, je n'ai pas encore d'enfants à charge, je n'ai jamais raté, je n'ai jamais perdu un an dans la scolarité. Donc, c'est bon, je peux prendre ça, je peux prendre une année pour tester le projet et le produit. Et donc, j'ai décidé de me lancer en février 2012, donc 6 mois après avoir eu mon diplôme.
Génial. Et du coup, c'est le fait que tu t'es donné cette espèce de tempo, de dire, OK, je regarde sur un an comment ça se passe, et puis après, j'avise, est-ce que du coup, j'arrête l'aventure ou je me lance ou je la continue, bien au contraire, qui t'a permis aussi de te rassurer sur le fait de dire, OK, j'y vais étape par étape et pas non plus directement se mettre un objectif qui était trop ambitieux, peut-être trop effrayant.
Je n'y avais jamais pensé sous cet angle, mais je pense que oui, en fait, j'avais quand même... j'avais pas de vie... Il faut toujours avoir évidemment une vision long terme hein, quand on lance un projet. Et puis surtout, on nous demande tout le temps de faire des business models avec des plans financiers à 5 ans, à 3 ans, à 5 ans, etc. Donc évidemment, je projetais le produit. Mais peut-être qu'en effet, dans ma tête, je me disais, ben, c'est pas grave si je perds un an à créer un produit ou une entreprise qui ne fonctionne pas, ben c'est pas grave. Je veux dire, j'aurais pas perdu beaucoup au niveau professionnel, j'aurais pas perdu beaucoup d'années. Et donc, le risque était minime à ce moment-là.
Et comme tu le dis, en fait, finalement, ce projet, c'est un peu ton premier bébé. Mm-hmm. Après, tu as eu donc 4 magnifiques enfants. Tu as décidé finalement de revendre l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a motivée? Parce que ça a dû être aussi un choix qui était relativement complexe et peut-être même douloureux de passer en cap.
C'est un processus quand même qui remonte à plusieurs mois. Je dirais que ça a commencé en janvier 2019, la réflexion. Et donc, j'ai vendu en décembre 2020. Donc, okay. 2 ans, hein, c'est quand même 2 ans de réflexion. Il m'a fallu beaucoup de résilience pour en arriver là. Mais simplement, voilà, je pense que je devais vraiment... Il était temps de laisser grandir l'entreprise dans les mains de quelqu'un d'autre. Parce que j'avais l'impression que moi, après 9 ans dans l'entreprise, justement, j'avais donné toute mon énergie à l'entreprise, toute ma motivation et que j'avais fait un maximum pour la développer et que moi, j'étais arrivée là où je pouvais amener l'entreprise au maximum et que j'avais besoin d'aide. Alors, il y avait plusieurs options, évidemment. Il y avait une option, c'était prendre un nouveau CEO à ma place. La deuxième option, c'était fusionner avec une autre entreprise. Et la troisième option, c'était revendre. Il y a une quatrième option, évidemment, qui a été vite oubliée, c'était d'arrêter tout court l'entreprise. Okay. Donc voilà, c'est quand même 2 ans de réflexion pour permettre en fait à un moment donné de se détacher de son bébé et de se dire ok, c'est ici, c'est pour son bien, c'est pour le bien de l'entreprise qu'il est temps que je passe un peu le flambeau à une autre équipe, à quelqu'un qui aura plus de moyens financiers, quelqu'un qui aura déjà une structure logistique, marketing, finance, enfin financière, etc. et qui pourra plus vite maintenant développer l'entreprise.
Ça demande quand même une grande dose d'humilité au final d'accepter et de passer la main à une autre équipe.
Après, c'est super gentil de dire que c'est une bonne dose d'humilité. C'est vrai que dit comme ça, en effet, mais il y a aussi une raison financière derrière. L'entreprise, il fallait soit que j'aille encore lever beaucoup d'argent. Et la réflexion, c'est est-ce que j'ai le courage d'aller encore lever tout cet argent ou est-ce que justement, maintenant, il est temps qu'il y ait une autre équipe qui soit en place, pas plus compétente, mais... Oui, plus compétente pour le niveau maintenant de développement qu'exigeait l'entreprise. Voilà. Et moi, j'avais 2 objectifs dans la revente de l'entreprise. Le premier objectif, c'était que la marque, évidemment, soit pérenne et continue à se développer. Et le deuxième objectif, j'avais 3 objectifs. Deuxième objectif, c'était que les emplois soient maintenus. C'était très important pour moi que l'équipe que j'avais mise en place reste et continue à développer l'entreprise.
Et du coup, ça, c'est un objectif que tu as réussi à atteindre?
Oui. Donc aujourd'hui, l'équipe mise en place est restée pour le nouveau propriétaire. Et en plus de ça, il y a deux nouveaux postes qui ont été créés depuis mon départ. Donc depuis janvier 2020, il y a deux nouveaux postes qui ont été créés. Et voilà, donc maintenant, l'équipe est très compétente, elle est très complémentaire. Et le nouveau propriétaire peut vraiment compter sur cette équipe-là pour développer l'entreprise.
Et du coup, ton troisième objectif?
Le troisième objectif, c'était que les investisseurs récupèrent la grande partie de leur mise.
Ok. Bah, c'est dans ton livre, tu parles aussi beaucoup. Enfin, je crois qu'il y a une grosse partie du livre qui est justement sur la mise en garde et aussi des conseils pratiques finalement pour tout ce qui est financement de l'entreprise. Tu es la première entreprise belge à avoir recours à un crowdfunding. Et en effet, tu parles souvent du fait que ça t'a apporté le financement, mais ça t'a aussi pris beaucoup d'énergie parce que c'est un processus qui a l'air relativement long, complexe. Puis il y a tous ces stress de trésorerie qui tournent autour. À quel point finalement, si aujourd'hui tu te relançais dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose auquel tu voudrais encore avoir affaire à justement un financement externe?
Je pense que, voilà, il y a plusieurs options. Évidemment, quand on crée un produit, un service, une entreprise, il y a toujours plusieurs options. Il y a plusieurs méthodes de financement. Il faut toujours sélectionner quelle est la bonne pour l'étape de développement de l'entreprise. Donc, au début du projet, on va plutôt faire appel à du crowdfunding, puisqu'on va plutôt faire appel aux friends and family and fools, voilà. Et puis, on va utiliser son propre réseau pour créer le produit ou l'entreprise. Ça, c'est quelque chose que enfin, de toute façon, oui, comme tu dis, ça m'a pris beaucoup d'énergie. Parce que ce sont des processus qui sont très, très chronophages, très lents et ben, très méthodiques et il faut convaincre sans cesse. Donc ça demande tout le temps beaucoup, beaucoup d'énergie, une grande concentration en tout cas. Mais c'est quelque chose qu'un entrepreneur est obligé de faire en fait. Que ça soit du financement par le crowdfunding, du financement ensuite par un business angel, du financement par des fonds d'investissement et puis au quatrième stade du financement par les banques. Dans tous les cas, c'est des présentations une grande concentration et une grande énergie qui est demandée et une grande rigueur. Je pense que c'est difficile d'y échapper. Peut-être, by nature, j'ai eu la chance, on va dire, l'opportunité de pouvoir faire les quatre méthodes de financement. Voilà.
Tu maîtrises du coup l'ensemble des maillons.
Des méthodes, mais je pense que de toute façon, un entrepreneur, il doit toujours faire appel à au moins une de ces méthodes-là à un moment donné de développement de son produit. Peut-être pas au début, mais tôt ou tard, il faut faire intervenir les banques, il me semble. Tôt ou tard, peut-être des fonds d'investissement ou tôt ou tard des investisseurs privés. Voilà, le crowdfunding, ça pas tout le monde, mais je pense que c'est un bon moyen pour pour rassembler et avoir des premiers ambassadeurs de sa marque.
Et tu parles d'énergie, l'énergie que ça a pu te prendre, ou que ça a pu, d'autres éléments ont t'en évidemment apporté. Et dans le livre, tu mentionnes clairement aussi la loi de Pareto, qui est justement le fait de faire 20% d'efforts pour 80% de résultats. Comment est-ce que tu arrives à le mettre en pratique concrètement, parce que d'autant plus quand tu es maman et entrepreneur, j'imagine que donc ça a encore plus de sens. Mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est facilement réalisable? Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend?
Je pense que moi, je l'ai appris au fur et à mesure. Ben, j'ai eu 9 ans d'entrepreneuriat avec le projet Binature. Je pense que ce n'est pas quelque chose que je faisais au début. Je pense que j'ai appris à le faire et à force d'entendre aussi ce concept-là. Et puis récemment, justement, avec un coach dans l'entreprise. Donc pendant la dernière année et demie de mon parcours chez Binature, j'ai eu un coach pour revoir vraiment le business model chez Binature et pour voir m'aider à prendre justement de la hauteur par rapport au business model et à la stratégie de l'entreprise. Et ça vient aussi c'est lui qui me le rappelait aussi tout le temps. Mais c'est sûr qu'au début, quand on est entrepreneur, les premières années, on fonce un peu tête baissée, on fait tout en fait, et on ne se pose pas vraiment la question de savoir ce qui est vraiment utile dans ce qu'on fait. Je pense à parfois des bêtes tâches administratives qu'on fait parce qu'en fait, on le fait depuis 1 an ou 6 mois comme ça et on ne prend pas de la hauteur pour savoir pourquoi est-ce qu'on le fait encore ou pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça. Et voilà, je pense que ce concept-là nous aide à voir, OK, ça n'a aucune valeur ajoutée dans l'entreprise, je ne le fais pas. Et je pense qu'il faut toujours y penser.
Et tu vois, dans mes coachings, je reçois quand même beaucoup de femmes, essentiellement des femmes, qui viennent avec cette envie finalement de devenir, de se lancer leur propre business. La plupart sont employées aujourd'hui, beaucoup, enfin en tout cas certaines sont mères, mais je sens quand même beaucoup de résistance par rapport à ce statut d'être justement maman et entrepreneur. Quelles seraient pour toi les choses que tu pourrais conseiller, les choses que tu pourrais leur dire, non pas pour foncer et devenir entrepreneur, parce que certaines personnes ne sont pas destinées à ça, mais en tout cas pour aller un peu au bout de leurs idées, parce que tu disais, toi, la création d'idées, c'est important, mais quels conseils tu pourrais donner justement à ces femmes ?
Bah, déjà de suivre le coaching avec toi. Non, mais en vrai, de vraiment savoir au fond ce dont elles ont besoin pour leur épanouissement personnel. Parce que l'épanouissement personnel passe par l'épanouissement professionnel. C'est ce que je pense profondément. Évidemment, être épanoui au niveau professionnel, ben, c'est être en accord avec ce qu'on fait, sentir que ses valeurs se retrouvent dans le quotidien, avoir l'énergie chaque matin pour sa journée. Si on commence à avoir une boule au ventre le dimanche soir parce que la semaine recommence, ben, je pense que là, il faut vraiment se poser une question. Et voilà, ici, dans le livre, je pose plusieurs questions et je dis, voilà, si c'est non à toutes ces réponses, ben ok, c'est que vous n'êtes plus en accord avec vous-même parce que vous faites un métier ou vous avez un quotidien qui ne vous satisfait plus. Si je suis entrepreneur, et je me suis posé beaucoup la question, justement, quand j'ai décidé d'entamer le processus de vente de l'entreprise, je me suis dit, mais ok, au fond, pourquoi est-ce que je suis entrepreneur? Qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Moi, je sais que personnellement, j'ai besoin de ça dans ma vie pour être épanouie. Parce qu'être entrepreneur, pour moi, c'est solutionner sans cesse des problèmes. Donc, c'est toujours penser en dehors du cadre. C'est être créatif. Moi, j'ai jamais eu une seule journée qui se ressemblait en 9 ans. J'ai jamais eu 2 journées qui étaient pareilles. On rencontre beaucoup de personnes. Ce que j'aime bien, c'est continuer à apprendre tout le temps. Si je m'embête, en fait, ça va pas. Et donc, je sais qu'en étant entrepreneur, la fonction, elle passe par du marketing, de la vente, de la logistique, des finances, du management, de la création de produits. Enfin, voilà, c'est tout le boulot, il est super varié, il est jamais le même. Et on continue à apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, en discutant avec d'autres entrepreneurs, ce qui challenge l'idée d'être entrepreneur, c'est de pouvoir quand même être libre dans le sens de gérer ses horaires. Ça ne veut pas dire travailler moins, attention. Ça veut dire travailler autrement.
Bien le contraire.
Voilà, voilà. Souvent, c'est bien l'inverse. Mais en fait, j'ai lu une phrase que j'adore. C'est choisissez un boulot que vous aimez et vous n'aurez plus jamais à travailler du reste jusqu'à la fin de votre vie. Mais c'est tellement vrai, en fait. Parce que quand on aime ce qu'on fait, ben, c'est pas grave de travailler le soir, c'est pas grave de travailler le week-end. Voilà, moi, je sais que les moments après école sont très importants pour moi. J'aime donner le bain à mes enfants, j'aime donner leur repas, partager, aller les chercher à l'école. Tous ces moments-là sont super importants pour moi. Et donc, voilà, être entrepreneur, ça me permet de le faire puisque je gère mes horaires. Mais voilà, c'est pas une fois qu'ils sont au lit, je retravaille et le week-end, souvent, je dois travailler. Et les vacances, ben, je travaille aussi, mais c'est ma façon de fonctionner. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont dire, ah non, moi, quand je suis en vacances, c'est hors de question de lire mes mails. Et je comprends tout à fait, je respecte à 200%. On est tous différents dans la façon dont on fonctionne et il faut se connaître pour savoir ce dont on a envie.
C'est intéressant ce que tu dis parce que clairement, apprendre à se connaître, je crois que c'est un des éléments phare pour savoir où est-ce qu'on veut aller en fait finalement dans le futur. Et tu parlais de justement le fait de connaître ce qui nous animait, donc là tu parlais de fait de comprendre, de créer, etc. C'est un exercice que je fais régulièrement justement avec les gens en leur demandant qu'est-ce qui les anime. Et donc souvent on vient sur le fait de comprendre du réel, d'avoir des choses très opérationnelles ou pas, et les gens ne captent pas en fait pourquoi je pose cette question du oui, ok, maintenant je sais que j'aime les comprendre les choses et que j'aime faire des liens, mais so what? Et donc c'est intéressant de voir comment toi, justement, tu l'as intégré pour en fait que ça soit ta base, c'était tes besoins, ta manière de fonctionner, ce qui va t'animer. Et dans ton livre, il y a une phrase qui m'a marquée, parce que je l'ai beaucoup appréciée, où tu dis « Une entreprise ne peut prendre des décisions stratégiques pour son développement que si elle connaît ses valeurs, sa mission et sa vision de son propre fonctionnement. C'est pareil pour nous. » Et je trouve ça hyper intéressant parce que beaucoup de gens arrivent à comprendre cette partie pour l'entreprise, mais ont du mal à finalement à se l'appliquer elles-mêmes.
C'est vrai. En fait, ben, tout à fait. OK, on nous apprend à l'école, en marketing, qu'une entreprise doit avoir sa vision, sa mission et ses valeurs, que c'est très important, et que chaque décision qui permettra le développement de son entreprise doit être basée sur ça. Voilà, moi, je dis, dans le livre, justement, je dis, j'aime bien comparer, l'être humain, en l'occurrence, ben, la jeune femme, la jeune maman potentielle, à une jeune entreprise, quoi, qui doit prendre ses choix, qui doit choisir ses décisions selon son propre système de valeurs, de vision et de mission.
Et toi, aujourd'hui, comme donc tu l'as dit, hein, t'as revendu ton entreprise, là tu es en fin de congé maternité, et bah, à partir de septembre, du coup, tu vas prendre un nouveau rôle qui est d'accompagner les entreprises dans le domaine pharmaceutique pour tout ce qui est justement création de nouveaux produits, enfin, tu as diverses missions, etc. Comment la mission que tu avais justement quand tu as fondé Binature, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que c'est la même en fait maintenant que tu te lances dans cette nouvelle aventure?
Je pense que c'est complètement la même. Je ne crois pas qu'elle a changé. Je veux toujours avoir donc un côté sociétal, environnemental, proche de la nature, un côté familial et un côté éducation aussi. Donc, je pense que ici, je rajoute le côté plutôt éducation dans ce nouveau projet professionnel.
C'est ça, donc ça vient plutôt le nourrir en fait,
Oui.
c'est une nouvelle manière de nourrir cette mission. Et est-ce que c'était pour toi une évidence du coup de trouver cette nouvelle fonction, alors je vais plutôt parler de fonction, à travers justement ce rôle de conseiller, de formation dont tu viens de parler, où justement il t'a fallu aussi beaucoup de temps de réflexion pour savoir mais quel serait le après finalement Binature?
Le processus, je crois qu'il est encore en réflexion parce que j'aimerais continuer ce rôle-là de consultante parce que ben, je veux faire bénéficier et gagner du temps des entreprises qui souhaitent créer leur marque, leur produit cosmétique ou over-the-counter, enfin tout ce qui est dans le médical belge avec attention des valeurs sociétales, environnementales, naturelles, parce qu'il y a vraiment une place à prendre là-dedans. Et que, voilà, j'ai travaillé 9 ans là-dedans, donc au niveau des contacts, des connaissances et tout ça, je vais faire gagner du temps, beaucoup de temps aux entreprises. Donc ça, c'est ce que j'aime faire aussi, créer. Voilà, donc ça, c'est important, mais je pense que ce n'est pas complet. Je crois qu'il y aura quand même d'autres peut-être qui, je l'espère, pourront compléter en fait ce pan-là. J'ai d'autres projets au niveau de l'écriture aussi.
Génial.
Et alors, j'aimerais bien, je pense, cette opportunité, avoir un pied aussi dans l'éducation. Donc, une haute école ou
C'est ça.
l'université. Voilà.
Du coup, pour faire profiter justement aux étudiants finalement de ce que tu as appris.
Mais en fait, je pense l'envie d'entreprendre, de créer de l'emploi en Belgique, d'aller jusqu'au bout des projets, voilà, ce genre de choses.
Et dans ton livre, surtout à la fin, tu insistes beaucoup sur le fait du test and learn. Donc, c'était ta manière de fonctionner pour Binature. Donc, le fait de tester des choses pour apprendre des choses et puis rectifier si besoin est. Est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place au fur et à mesure des années, ou c'est quelque chose pour toi qui était très inné, parce que pour beaucoup de gens, justement, c'est une manière assez différente de voir les choses. Comment est-ce que ça a apparu? À quel point ça t'est aujourd'hui tu trouves que c'est bénéfique et c'est un élément même indispensable dans ta vie?
Il y a 2 écoles. Il y en a qui sont partisans de cette méthode et il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Il y en a d'autres qui vont dire on va lancer un produit que quand il est à 100% parfait sur le marché et il y en a d'autres qui vont dire ben non, on fait le test and learn. On lance des stratégies qui ne fonctionnent pas, c'est pas grave, on essaye autre chose. Ben moi, voilà, avec Binature, on n'a clairement pas tout réussi du tout. On fait beaucoup, beaucoup d'erreurs, mais voilà, on est une petite structure et donc en fait, on pouvait pratiquer ce test and learn, c'est-à-dire que les décisions, il n'y a pas de processus long et chronophage justement. Les décisions, on peut les appliquer dès le lendemain si on le voulait. Donc ça, c'est très challengeant parce que c'est chouette, on voit directement les résultats d'une opération, enfin, peu importe quelle qu'elle soit, hein, mais on peut tester directement les résultats. Et puis voilà, si ça ne va pas, on rectifie. Bon, évidemment, tout dépend toujours de ce dont on parle, hein, on ne va pas prendre des risques non plus qui peuvent... Voilà, mais je n'ai pas d'idée concrète comme ça à présenter, mais oui, je pense que c'est quelque chose avec l'équipe Binature qu'on faisait souvent quand même.
Et ça, du coup, ça, cette partie de test and learn, ça fait partie de ce qu'on appelle la résilience, le fait de pouvoir finalement apprendre peut-être des échecs ou de ce qui se passe pour pouvoir rebondir, pouvoir recréer les choses.
Oui, complètement. Je pense que c'est une capacité à se remettre en question continuellement. Je pense que ça, l'entrepreneur, c'est une compétence qu'il doit vraiment avoir et travailler.
Et aujourd'hui, donc, t'as créé ce livre qui est donc Maman et entrepreneur. T'aurais pu aussi bien indiquer parents et entrepreneurs. Est-ce que finalement, il y a une raison que tu as davantage ciblé les femmes que les hommes?
Aujourd'hui, on parle vraiment beaucoup de parents et pas que de mamans. Donc pour moi, c'est très important aussi ce terme-là. Ici, entrepreneur et maman, entrepreneure au féminin et maman, parce que évidemment, je fais écho à mon rôle, à ce que moi j'ai appris et je ne peux pas parler à la place d'un homme. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Il y a 40% d'entrepreneurs contre 60% d'entrepreneurs.
Selon toi, quels sont alors du coup les obstacles qui font qu'il y a seulement 40% de femmes entrepreneurs contre finalement 60% d'hommes dans cette catégorie?
Allez, on sort des études, on prend un beau job avec un bon standing, avec un bon paquet salarial, et c'est ça qui nous attire au début. Et puis 10 ans après, on se remet aux questions, on se pose quand même, on se dit qu'on n'est plus en accord avec l'entreprise pour laquelle on travaille, on n'aime pas le fonctionnement dont l'entreprise agit, on n'est plus en accord avec les valeurs tout simplement, et on est un peu en quête de sens au niveau professionnel. Je pense qu'après, c'est difficile pour les femmes qui ont eu un certain niveau, qui ont pu contribuer à la charge familiale et qui ont des jours de congé par an, qui sont bien assises dans leur entreprise. En fait, certains disent que c'est des prisons dorées. Bon, moi, je ne sais pas si j'utilise ce terme. Voilà, peu importe. On n'ose plus la quitter parce que c'est clair qu'entreprendre, c'est prendre un risque de ne pas avoir de rémunération. C'est prendre un risque de devoir travailler beaucoup plus. Mais mieux, peut-être. Hein. Mais voilà, je pense qu'il y a pas tout le monde est prêt à prendre ce risque-là. Et puis, il n'y a rien à faire. Mais en tant que maman, on a droit au congé d'allaitement, on a droit au congé de parentalité, on a droit à des congés qui sont plus importants que les hommes, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, c'est sûr que renoncer à un statut d'employé, c'est renoncer à beaucoup d'avantages que le gouvernement octroie aux femmes plus qu'aux hommes, actuellement.
Et en effet, ça peut être une partie de la réponse, comme tu le dis. Si vraiment tu avais une baguette magique et que tu pouvais vraiment tout réaliser, tout faire, je sens le stress.
je me dis, flûte, si je devais repasser un entretien d'embauche aujourd'hui, je ne suis pas prête, hein, parce que c'est la question qu'on pose en entretien d'embauche.
Ah bon? Mais finalement, quel serait en fait ton rêve le plus idéal pour toi, ta famille? Enfin, je veux dire, toi professionnellement, pardon.
Mon rêve ultime, c'est d'être épanouie dans mon boulot et aussi bien dans ma vie privée que professionnelle, d'avoir beaucoup de temps pour ma vie privée, d'être animée par ce que je fais. Ça, c'est mon rêve ultime.
Et est-ce que du coup, tu as l'impression qu'au fur et à mesure du temps, tes décisions sont justement dirigées vers ce rêve, vers cet objectif?
Bon, j'ai envie de me sentir quand même utile à la société aussi. J'ai envie de contribuer à la société. J'ai pas envie que d'être dans une entreprise capitaliste. Et donc ça, c'est les deux combinés. En fait, c'est mon rêve ultime. Ce serait de me dire à la fin de ma vie, j'ai aidé la société. J'ai fait quelque chose d'utile pour la société. Et en plus de ça, j'ai trouvé moi-même un confort de vie qui me plaisait.
Et du coup, utile, c'est quelque chose qui a beaucoup de signification et qui dépend d'une personne à une autre. Pour toi, c'est quoi justement l'utilité ou quelle contribution tu voudrais justement apporter? Il n'y a pas de petite contribution, quoi.
Non, je pense que ça, tu le dis bien, il n'y a pas de petite contribution. Après, c'est sûr que on l'a bien vu ici avec la crise du Covid, les jobs utiles, c'était vraiment les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les instituts. Les instituteurs aussi, ils sont importants à la société pour l'équilibre des enfants, pour l'apprentissage, etc. Donc, tous ces métiers-là sont des métiers où je me suis dit, ah oui, waouh, eux, ils sont vraiment importants. Enfin, voilà. Et peut-être que j'en prenais pas conscience avant, Et maintenant, j'en prends vraiment pleinement conscience, quoi, que tous ces métiers-là sont les métiers de première ligne, comme on dit aussi. Ben, c'est les métiers vraiment utiles à la société. Alors moi, je vais pas refaire 9 ans d'études aujourd'hui. Enfin, c'est pas au programme. C'est pas au programme. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce n'est pas au programme. J'aime quand même fort tout ce qui est lié à la pharmacie. Hein, j'ai grandi dedans. Donc tout ça, ça me passionne quand même. Tout ce qui est pharmaceutique, médical, etc. J'adore. Voilà, tout ce qui est nutrithérapie. Enfin, tout ça, j'adore. Donc peut-être, pourquoi pas un jour. Mais voilà, ici, je me dis juste, ben, là où moi, je peux être utile à la société, c'est aller vers l'éducation. C'est le chemin pour moi, d'où je viens. C'est le chemin le plus direct et le plus facile de contribuer et d'être utile à la société. Quoi.
Génial. Bah Marine, merci beaucoup pour tous ces beaux conseils, ce bel échange. Et je te souhaite vraiment bonne continuation dans ces nouveaux challenges. Et on se tient évidemment au courant. Au revoir.